La Causerie Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la Causerie Sud Radio. Comme tous les vendredis, vous le savez, on a l'habitude de se retrouver en podcast pour débriefer, analyser, commenter les compositions et les matchs qui vont avoir lieu le week-end prochain. Et on va évidemment faire ça accompagné de la Dream Team des Q, Quentin Barbaza et Quentin Cabanis. Bonjour messieurs.
Salut Cyprien, salut tout le monde.
Bonjour à tous.
Bon, et parce que c'est le retour du Top 14 semaines de Champions Cup avec des matchs plus ou moins aléatoire, dirons-nous.
Il y en a eu des très bien et des beaucoup moins bien.
Il y a eu du mauvais également. La 12e journée du Top 14 reprend ses droits et elle commencera samedi 20 décembre avec à 14h30 Stade Français Racing 92, puis à 16h35 le multiplex avec François Trio, La Rochelle Bayonne, Montpellier Castres, Montauban Pau, Perpignan Clermont, et puis à 21h avec Alexandre Priam, le Lyon, le Loup qui reçoit Toulouse. Et le dimanche 21 décembre, ce sera Bordeaux-Bègle, Toulon avec Alexandre Priam et toute l'équipe rugby. Messieurs, le retour déjà du Top 14, est-ce que ça vous fait plaisir, Quentin Barbazin?
Oui, parce que franchement, j'ai passé deux semaines de Champions Cup à avoir un peu de mal à m'ambiancer, à trouver un peu d'envie à regarder ces matchs, parce que c'est un peu les matchs amicaux d'été, on tape en touche toutes les pénalités, on veut marquer des essais, ça fait des scores où tout le monde prend des bonus. Là, on va avoir un peu plus de matchs étriqués, des matchs à enjeu, et puis... c'est notre championnat, c'est le plus beau championnat du monde.
Ouais, et Quentin Cabanis est heureux également de retrouver ce championnat.
Toujours heureux, moi. De toute façon,
dès qu'il y a du rugby, il est content. Et encore mieux si c'est Castres qui joue et qui gagne. On en parlera dans quelques instants.
Castres va jouer, a priori.
Ça va commencer par contre cette journée avec le derby parisien, Stade Français Racing 92, à Jambouin, chez les Parisiens. Les Stades Français qui sortent de deux victoires en Challenge Cup et qui est actuellement quatrième avec 31 points, tandis que le Racing 92, 11e, 26 points. Véritable derby. Deux équipes qu'on attendait peut-être un peu plus dans difficulté finalement, comme Montauban-Perpignan, elles sont largement distancées. Le Stade Français est la bonne surprise de ce début de saison dans les équipes malades la saison dernière. Ils reçoivent évidemment un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Quentin Barbaza, est-ce que ce sont les Parisiens qui sont favoris face en recevant le Racing 92?
Sur le papier, oui. Sur le papier, sur la dynamique, sur tout ce qui est niveau de jeu en ce moment, dans cette première partie de saison, oui. Là, le Stade Français, ils sortent même de deux grosses performances en Challenge Cup, de bonus offensifs, chose que n'a pas été capable de faire le Racing en faisant un match nul contre Exeter et puis en perdant à l'extérieur, un gros carton à l'Ulster. Non, les Parisiens pour moi sont au-dessus, ça, je pense qu'ils vont être sur la même dynamique de vouloir déjà imposer leur suprématie territoriale. Ça fait un petit moment quand même qu'ils n'ont pas gagné dans le derby, ou du moins c'est un peu plus le Racing qui a l'avantage ces derniers matchs. Je pense que là il y a niveau expérience, peut-être que Paris sera au-dessus, notamment avec pas mal de joueurs qui ont déjà joué un paquet de derby. Je pense à Gabriac, je pense à Léo Barré ou des hommes du cru qui ont ce match, coché ce match. Mais bon, non, je pense que Paris, oui, est favori dans l'ensemble.
Quant à Cabanis, est-ce que c'est la même lecture que tu as, sachant que évidemment dans ce derby-là, les jeunes formés dans les différents clubs se sont joués depuis la tendre enfance et ce sont toujours des derbys particuliers entre les Parisiens et le Racing.
C'est évidemment un match compliqué à pronostiquer, parce que quand on regarde le classement, oui, le Stade Français est évidemment favori, les Parisiens qui sont quatrième alors que le Racing 92 est onzième. Le Racing 92 sort de défaite d'un match nul et d'une défaite en Champions Cup, mais j'ai pas le sentiment qu'ils se soient non plus vraiment donné à fond dans cette compétition. Il y a des joueurs qui ont tourné, donc je pense qu'ils vont arriver avec un élan de fraîcheur peut-être supérieur à celui du Stade Français, et ça peut être important de le prendre en compte. Et quand on voit l'équipe probable alignée par le Racing 92, il y a clairement une volonté d'aller faire un résultat et pourquoi pas de vraiment enfin lancer cette saison avant Noël. Donc voilà, moi je serais un petit peu plus sceptique et je vois un match quand même extrêmement serré entre les deux équipes.
Ouais, en effet, extrêmement serré. À noter que quand même du côté parisien, ils se sont privés, non retenus, notamment Lester Estien, Ryan Chapuis ou Julien Delbuis, des Parisiens. En effet, il y a encore l'absence de Carbarlo, le demi-mêlé. Parmi d'ailleurs, avec les compositions probables qui vont tomber là dans la soirée, est-ce que vous avez un joueur que vous allez particulièrement surveiller dans chaque équipe, Quentin Barbaza?
Moi, je vais regarder Johan Tanga, parce que Johan Tanga, on l'avait laissé sur une gros début de saison. Là, il a pas joué les deux derniers matchs, il me semble, où il a été un peu laissé au repos parce que le top 14 est la guerre première des Parisiens. Donc là, il reprend du service logiquement au centre de la troisième ligne. Il va jouer contre son ancien club, un club qu'il a bien connu également, le Racing 92. Donc non, peut-être un poursuivre sur la lancée avec Johan Tanga.
Johan Tanga, et du côté parisien.
Il y a cette ligne de trois quarts. Quand on regarde un peu l'expérience derrière, je vais penser à Gaël Ficou, c'est l'homme qui a joué le plus de derby sur le terrain.
Là, tu... Ah oui.
Okay, pardon, ouais, Tanga et Parisien. Ouais. Oui.
J'ai tout mélangé. Paris, Tanga pour le Stade Français, et du coup pour les Franciliens.
Ficou ouais, pour le Racing, parce que voilà, c'est l'ancien l'expérience.
Et... En fait, il n'y a que des anciens. Voilà,
c'est que des ex.
Et donc, du coup, Gaël Ficou
et Tanga.
Et pour toi, Quentin Cabanis?
Et ben moi, je vais faire aussi le choix d'un joueur qui avait été préservé pour la Champions Cup, un certain Thuy Sova pour le Racing 92. Voilà, j'ai envie de le voir à son meilleur niveau avec cette équipe du Racing. Et en plus, bah, il y aura une paire de centres en face qui est quand même très intéressante. Et donc voilà, j'ai envie de voir ce duel au centre avec Thuy Sova Ficou face à Néné Ward. Voilà. Ouais, c'est plus un duel de centre,
ouais,
que j'ai envie de voir.
Ça risque d'être assez costaud. Moi, je vais aller sur le capitaine emblématique du Stade Français, Paul Gabriel, qui enchaîne les saisons, qui est vraiment l'âme de ce club, parce que quand on regarde les compositions, il y a pas mal de joueurs qui y sont arrivés après, mais mis à part lui et Léo Barré, il y a peu de joueurs formés réellement au club de la capitale.
Des mecs du cru, il y en a plus tant que ça.
Il y a Noah Néné, mais qui a été prêté entre-temps à Dax, mais des purs Parisiens, il y en a peu dans le 15. Type, donc Paul Gabriel sera du côté parisien à surveiller. Et du côté du Racing 92, c'est sûrement Wilfried Hulleux, l'ailier venu de Grenoble, qui est en fait la bonne surprise. On pensait pas qu'il allait prendre le maillot comme il le prend, et en fait il l'a pris et il le garde, et surtout avec des performances assez intéressantes. C'est parfois lui qui d'ailleurs remet son équipe dans l'axe quand c'est un peu plus dur. On passe au pronostic, messieurs, entre Stade Français, Racing 92, Quentin Cabanis.
Je vais prendre un risque, je vais mettre victoire du Racing 92 à Jean Bouin, mais point de bonus défensif pour les Parisiens. Donc voilà, victoire à l'extérieur. Grosse cote.
Grosse cote. Racing 92.
Non, moi j'ai resté sur une victoire à domicile du Stade Français et un petit bonus défensif pour le Racing.
Et moi je vais aller également sur une victoire du Stade Français Paris et un point de bonus défensif pour en effet le Racing 92. On attaque ensuite, messieurs, ce multiplex Montpellier-Castres qui commencera à 16h35. Les Montpelliérains qui d'ailleurs ont fait une communication assez sympa pour annoncer ce match. Ils sont servis d'un extrait de film. Il me semble que c'était, j'ai un trou de mémoire, ce film
oui,
romantique.
Non, je le vois, la comédie romantique avec les petits panneaux là, qui passe souvent en plus aux périodes de Noël. Donc c'est vraiment le bon moment, et ça avait été aussi repris en parodie il y a quelques années par Laura Lone et Guillaume Batz, voilà, qui avait sonné devant chez elle avec
la
les panneaux.
Voilà. Voilà.
Mais Guillaume Batz avait repris aussi ça dans un sketch avec Laura Lone, ça avait été très drôle.
Et donc là, du coup, les Montpelliérains ont fait ça avec...
S'en prennent aux castrés.
Exactement, s'en prennent aux castrés. Taquine les castrés.
Ils disent qu'ils sont pénibles.
Les Montpelliérains qui sont actuellement 7e, qui sont aux portes du top 6 pour se qualifier, tout comme les castrés, ils sont à égalité de points, les deux équipes, 7e et 8e. C'est vraiment un duel qui va compter pour la suite du championnat, sachant que Castres s'est déjà incliné trop de fois à domicile, et Montpellier aussi, deux fois pour les deux équipes. Ce sont des matchs qui vont compter. Montpellier-Castres, Quentin Cabanis, est-elle me placer pour en parler? Match qui va compter double ou pas?
Au classement, oui. Déjà parce que c'est une victoire où tu peux potentiellement empêcher une équipe d'avoir des points et toi en marquer 4. Donc une victoire à 8 points, pour appeler ça. Et ça pourrait quasiment définir la fin de la saison, surtout pour les Montpelliérains, parce que c'est à domicile. Donc en cas de défaite montpelliéraine, concrètement, ils seraient plus proches de la 12e place que du top 6. Donc voilà, je pense que pour les deux équipes, il y a un énorme enjeu sur ce match, principalement quand même pour les Montpelliérains qui vont évoluer à domicile. Mais voilà, on sent quand même que c'est deux équipes qui ont envie de marquer un grand coup à l'approche des fêtes. C'est deux équipes qui ont gagné en plus en Champions et en Challenge Cup le week-end dernier. Montpellier qui a réussi pour l'instant à sans faute dans son parcours européen, donc qui arrive avec le plein de confiance. Castres qui s'est refait la cerise à domicile face à Édimbourg. Donc voilà, on pense que c'est deux équipes qui arrivent quand même avec un capital confiant confiance au max et qui aura, je pense, un duel d'intelligents devant. Et voilà, je pense que ça va taper fort.
Au vu de ce qu'on voit des compositions probables, en plus de ça, quand t'as un Barbaza, c'est que la grosse équipe est mise des deux côtés. Il y a vraiment une volonté de cocher ce match.
Bah oui, parce qu'on est vraiment dans une période charnière de la saison. Ce sont les deux matchs au moment des fêtes, milieu de saison, avant de basculer sur la phase retour. Le Boxing Day, c'est un peu là où il y aura un peu plus de monde au stade. Et puis quand on regarde le classement, c'est un match qui ouvre les portes du top 6. Les deux équipes sont 7e et 8e. Si on arrive à, comme tu l'as dit, à Castres à faire un coup à l'extérieur, chose qu'ils n'ont pas encore trop réussi à faire cette saison à part à Montauban.
La Rochelle.
Et là, oui, à La Rochelle, oui, j'avais oublié vraiment celui-là, c'était vraiment la performance référence. Mais là, s'ils arrivent encore une fois à s'exporter, ça peut vraiment lancer cette saison. Et pour Montpellier, ils ont déjà perdu deux fois à domicile, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un troisième échec. Donc c'est vraiment deux équipes qui sont assez
Surtout
similaires,
avec un,
je trouve.
Un concurrent direct.
Oui, voilà, c'est ça, c'est deux équipes assez similaires qui ont le même objectif, qui sont
deux villes qui ont aimé se jouer dans des phases finales, etc. Il y a eu des matchs qui ont été couperés, c'est pas deux équipes, frères ennemis un peu, tu vois. On aime se détester,
c'est toujours bien.
Voilà,
dans les joueurs à suivre d'ailleurs, Quentin Barbaza, toi, sur les deux équipes, est-ce que tu as
Pour Montpellier, je vais regarder l'homme qui ne rate pas une minute. Ça va être Tom Banks. Depuis le début de la saison en top 14, il joue tout le temps, il est tout le temps là à l'arrière, il n'y a aucune blessure, aucun trou d'air pour le
joueur. Est-ce qu'un jour il va sauter, tu penses?
La banque va sauter peut-être, mais voilà. Je pense pas, mais pour l'instant il saute en l'air, pour l'instant il récupère des ballons hauts. Mais après, pour en tout cas Tom Banks, il y avait quelques incertitudes sur son arrivée à Montpellier, et puis au final il a fait 11 matchs et bientôt 12 complets et plutôt au niveau.
Et il confirme. Et en effet, du côté de Castres, est-ce que tu as un joueur en particulier?
Moi ça va être Christian Badiang, parce qu'on y retrouve un peu de temps de jeu dans cette équipe castresse qu'on ne voyait plus trop. C'est un joueur assez fantasque qui est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu la semaine dernière avec pas mal quand même de velléité offensive, mais dans le dernier geste souvent c'était
scoring.
Voilà, c'est ça, dans le dernier geste il y avait souvent une petite scorie qui manquait. Mais s'il arrive à retrouver un peu sa justesse offensive, son engagement physique comme on le connaissait quand il était à Nevers, ça fait toujours mal. Voilà, la discipline, c'est toujours ça son gros bémol dans son style de jeu, mais s'il coche toutes les cases et si tout va bien pour lui, c'est un joueur que j'aimerais pas me mettre en face.
Ouais, exactement, on n'aimerait pas se mettre en face, surtout quand il arrive lancé, ça risque de piquer. Les joueurs que tu vas surveiller, toi, Quentin Cabanis?
Côté Castres, je vais prendre l'autre ailier, Vargas, qui pour moi est une des très belles révélations de cette saison de top 14. Alors on connaissait, hein, pour ceux qui suivent la Pro D2, mais à Castres il est quand même, je trouve, très bon quand il joue. Donc Vargas pour les Castres. Et je vais surveiller Wilfried Houck-Patin pour cette équipe du MHR, voilà, l'ancien Castres, qui va retrouver certains de ses anciens coéquipiers. Donc pour voir un petit peu ce que ça va donner.
Alors en effet, et de mon côté, moi, sur les Castres, alors je suis surpris, mais c'est sûrement dû à un petit pépin physique, c'est que Botitou n'est pas du tout dans le groupe en ce temps. Sur la composition probable, c'est Kokadji qui porte le numéro 13, et moi je vais aller surtout surveiller Enzo Hervé, qui va avoir la lourde tâche de d'animer l'attaque avec le numéro 10 dans le dos, alors que depuis le retour de Pierre Poplin, c'est surtout lui qui avait pris un peu l'ascendant sur Enzo Hervé, qui arrive en cours de saison de Toulon. Enzo Hervé qui peut complètement coller à l'ADN castrez avec un bon jeu au pied et une bonne animation quand il faut, surtout sur les deuxièmes, troisièmes temps de jeu. Et du côté de Montpellier, celui qui me fait plutôt forte impression depuis quelques matchs, c'est Domingo Miotti, l'autre 10, le duel des 10, lui qui est l'ancien d'Oyonnax, qui a mis peut-être une saison à prendre un peu la mesure de son nouveau club, qui depuis qu'il joue, quand il est vraiment dans un très bon jour, il est vraiment excellent. Parfois il peut passer à côté, donc il va falloir trouver plus de régularité et de constance, mais en tout cas on a la sensation que ça va être un beau duel de 10 et un beau match quoi qu'il arrive. Montpellier Castres, un petit prono pour cette rencontre. Est-ce que les Castrés, Quentin Cabanis, vont le faire?
Ça va pas être facile, non. Je pense que ça va être trop juste. Je pense que les Castrés vont s'incliner, mais vont quand même prendre le bonus défensif sur la pelouse du MHR.
Je te suis sur ce pronostic.
Et moi je vois une victoire sèche du MHR.
Pour lancer ce multiplex, la suite de ce multiplex, c'est une autre très belle affiche, La Rochelle-Bayonne, messieurs. les Bayonnais qui restent sur deux défaites en Coupe d'Europe, qui n'ont clairement pas coché cette compétition. Bayonne 5e, 30 points, tandis que La Rochelle est 10e, 26 points. Tout est possible encore sur ces deux rencontres, surtout si La Rochelle s'impose à domicile. Les Rochelais qui, on va pas se mentir, on a l'impression qu'ils ont retrouvé un peu d'entrain et de jeu et de spontanéité, surtout qu'il y aura le retour du grand patron Rochelet, Nolan Le Garec à la mêlée, et ça, quant à Cavani, ça peut tout changer.
Ah bah, ça peut tout changer, évidemment, hein. C'est le joueur talentueux par excellence de cette équipe rochelaise, c'est celui qui est censé diriger les lignes arrière rochelaises désormais, donc son retour va faire énormément de bien. Il y a un autre retour au poste de titulaire, hein, parce que Antonio va être titulaire pour caler cette mêlée rochelaise, qui allait beaucoup mieux déjà depuis un certain temps, donc voilà, ça peut être un choc intéressant devant, parce que tu auras quand même deux premières lignes très intéressantes avec Kadouri, Latou, Antonio face à Bordelais, Bosch, Setiano. C'est quand même du très très haut niveau. Il y a peut-être un des espoirs à ce poste avec Kadouri. Alors Latou, c'est un joueur qui est quand même plus sur courant alternatif, hein, qui est capable du meilleur comme du pire. Et en face, c'est très très sérieux ce qui va nous être proposé. Donc on peut imaginer que ça tape très fort, surtout que les Rochelais devrait arriver plutôt en forme, parce qu'ils ont complètement fait tourner sur le déplacement aux Stormers en Champions Cup. Donc je pense qu'ils vont arriver avec du rythme. Côté Bayonne,
va quand même enchaîner à l'ouverture.
Ouais, mais ça c'est aussi peut-être parce qu'il a prouvé qu'il
était au niveau. Astoy est suspendu.
Exactement, mais côté Bayonne, va falloir aussi passer et évacuer la déception de la Champions Cup, où ça s'est pas très bien passé pour les Bayonne. Il faut faire une croix dessus maintenant et se replonger dans la saison. Donc voilà, ça va être quand même un match compliqué à vivre pour les Bayonnais.
Ouais, les Bayonnais, ça va être compliqué. Est-ce que le Bayonne peut bien s'exporter ? Est-ce qu'il faut surtout un match référence pour les Bayonnais à l'extérieur pour vraiment se dire « Ok, on est sur la continuité de la saison dernière ?»
Bah oui, là les Bayonnais, ils ont fait deux semaines de Champions Cup où ils ont quand même fait drôlement tourner leur effectif. Donc là, ils arrivent avec un retour de top 14 où ils sont déjà un candidat à serrer au top 6. Ça va être un match qui va sentir les phases finales. Et ils arrivent clairement avec une grosse équipe, avec l'envie de s'exporter. C'est ce que disait Facundo Bosch en conférence de presse. Il a clairement dit que pour exister dans ce top 6 et dans les hautes sphères du top 14, il fallait faire des exploits extérieurs. Chose que Bayonne n'arrive pas vraiment à faire, à part au début de saison quand ils sont allés gagner à l'USAP. Depuis, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas là ils arrivent avec l'envie d'aller défier cette équipe rochelaise qui n'est pas en grande confiance en top 14, 3 défaites de suite. C'est peut-être là qu'il faut s'affirmer pour Bayonne s'ils veulent ne pas être un peu relégués dans cette course à la qualification.
Et quant à Cabanis, les joueurs que tu vas surveiller sur cette rencontre,
On l'a évoqué tout à l'heure, hein, Nolan Le Garec évidemment au poste de mid-mêlée, et pour cette équipe bordelaise, le petit duel de neuf avec Jantis qui doit vraiment s'imposer dans cette équipe bayonnaise. Alors sa chance finalement un petit peu, c'est la malchance des autres demi de mêlée bayonnais qui se pètent tous les uns après les autres. Lui, il revient de blessure, donc voilà, à voir s'il arrive à prendre ce rôle de leader qu'il doit avoir. Et là en plus il sera à côté du patron, donc il a toutes les cartes en main pour faire un bon match, même si l'adversité va être quand même de très haut niveau.
Le patron, c'est Juris Segond, évidemment. Quentin Barbazal, les joueurs que tu vas surveiller.
Côté Rochelet, je vais regarder Ninashvili, parce qu'on l'a beaucoup vu cette dernière semaine au poste d'ailier. Là, il devrait retourner à l'arrière, parce que Dylan Needs devrait être laissé au repos sur ce match-là. Donc Ninashvili, il va reprendre un poste qu'il avait beaucoup joué avec le Loup, un peu moins avec la Rochelle, parce qu'il a eu quelques, je pense, performances assez difficiles.
Il passe sur le poteau des fois.
Ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc là, le staff lui refait confiance à l'arrière. Du coup, on va regarder sa performance. Et en face, ça va être le retour de Tuilagi, qui était blessé à la main et qui revient comme titulaire sur ce match-là. Et quand Tuilagi est là, généralement, il emmène toute cette ligne de trois quarts avec lui, avec sa puissance. Et généralement, quand il est là, ça va.
Exactement. Et moi, je vais aller sur un duel un peu de troisième ligne, messieurs, parce qu'il y a d'un côté Jégou, Aldrit, Haddad, Victor, et de l'autre côté Kapila, Léota, Fischer. Et ça risque de taper, ça risque d'être assez intéressant.
Le Kapila Jégou.
Le Kapila Jégou, je pense que...
En mode jeune
talentueux. Il y a de quoi, il y a du talent. Mm. Et dans le style découpeur, Haddad Victor contre Fischer, il y a de quoi faire. Et impact player, Aldrit Léota, merci bien. Vous repasserez. En tout cas, ça va être un match assez intéressant à suivre dans le multiplex. Un petit prono sur cette rencontre, messieurs. La Rochelle-Bayonne.
Ça va être serré. Je dis une victoire étriquée du Stade Rochelais avec un bonus défensif pour Bayonne.
Et moi, je vais aller sur une victoire également de La Rochelle avec un bonus défensif pour Bayonne.
Et moi, je vais aller sur une victoire sèche du Stade Rochelais.
Prochain match, troisième match du multiplex Montauban-Pau, messieurs, avec Montauban qui reçoit la section paloise. Montauban avant-dernier, 7 points, on le rappelle, avec notamment une victoire qui a compté contre Perpignan, tandis que Pau, eh bien, depuis le milieu de la semaine, début de semaine, Quentin Barbaza, ils sont leaders, les Palois, puisque le Stade Toulousain, on leur a retiré 2 points
sur tapis vert.
Sur tapis vert,
ce qui va bien à Pau.
On en reparlera lundi un peu plus en profondeur, et même sur l'antenne de mais en effet, 37 points partout pour Pau-Toulouse. C'est Pau qui est actuellement leader, puisque un meilleur goal average. Les Palois qui se déplacent du coup du côté de Montauban. Et puis, tu l'as sorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux,
ah oui, Quentin Barbaza. Il y a des bobos.
Il y a des bobos du côté palois. Allô, maman, palois.
Bobo. Allô, maman, bobo.
Allô, maman, popo.
Alain Souchon.
Je voulais faire allô, maman, popo.
Ah non, popo. Ça c'est.
C'est,
ouais, du coup, je me suis rendu compte que ça marchait pas bien.
Non, c'est pas terrible. Non, c'est.
Elle est monstrueuse.
Mais on va te la laisser. Hein,
parfois, tout n'est pas bon. Hein.
Non, voilà. Mais après, l'important, c'est d'essayer, c'est de faire des efforts. Écoute,
c'est l'histoire de ma vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Palois se déplacent avec des absences. Malgré tout, c'est une équipe plus que compétitrice et qui peut aller clairement embêter ses Montalbanais à domicile. Est-ce que Montauban va pouvoir réaliser l'exploit de battre le leader de ce top 14?
Bah en tout cas, je pense que s'il est pour faire l'exploit, c'est un truc comme ça c'est contre une équipe comme celle qui va être alignée que Montauban peut le faire, parce que Pau, ils vont arriver quand même avec une équipe assez remaniée, assez amputée de leurs meilleurs éléments. Et à l'inverse, côté palois, si on veut s'affirmer en haut du top 14, c'est des matchs comme ça qu'on peut pas louper, parce que attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on joue des équipes qui sont tout en bas, sur lesquelles à peu près 90% du championnat vont aller prendre des points. Donc il faut pas, au goal average et enfin à la différence particulière entre chaque équipe, les Palois se doivent d'aller gagner ce match. Après, ils vont y aller quand même touchés, blessés, pas mal un peu secoués après cette défaite dans les grandes largeurs à Bristol. Mais là, ils arrivent sur le championnat qui leur va bien, ils sont en forme, ils sont en confiance, ils sont premiers du top 14, donc il faut qu'ils gagnent et je pense qu'ils l'ont coché.
Et parmi les joueurs importants qui seront sur la feuille, Quentin Cabanis, on peut voir Arfeuille, Broboiri, Dobania, Credoz, Gorgadze, Oradou, Maximin, Laclaillard.
Équipe remaniée, ça va. Hein.
Ça reste,
je veux dire, c'est quand même une équipe
ça montre aussi la profondeur d'effectif de la section.
Non, et puis la section paloise, cette saison, ce qui est impressionnant, c'est quand il manque quelqu'un, on a l'impression que celui qui arrive et qui explose aux yeux de tout le monde est quasiment aussi fort, donc c'est assez impressionnant. Et là, moi, je trouve que l'équipe paloise, pour aller faire ce déplacement du côté de Montauban, elle est quand même plus que solide. Et c'est une équipe pour aller faire un résultat face à cette équipe de Sapiac. Et le truc, c'est que là, on va voir si Montauban a la capacité de survivre un petit peu, ou si vraiment c'est une équipe du deuxième championnat et qu'elle peut pas lutter contre celle qui est actuellement leader ou ex aequo, quoi, en tête du classement, quoi.
Ouais, exactement. Alors que du côté montalbanais, ça risque d'être compliqué de recevoir le leader, qui se sont inclinés 2 fois également en Challenge Cup. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas du tout coché la compétition. Les joueurs que vous allez surveiller, messieurs, sur cette rencontre, Quentin Barbaza.
Pour les Palois, je vais regarder un homme qui marche sur l'eau. Enfin, pour moi, c'est presque l'un des meilleurs joueurs de ce top 14 depuis le début de la saison. C'est Fabien Broboiri. Même quand l'équipe est dans un trou noir complet à Bristol, c'est lui l'éclair de génie qui va marquer un doublé.
Va porter un numéro sur lequel il n'est pas habitué.
Oui, le 13 obligatoirement.
Alors qu'il est plutôt 12 depuis le début de la saison.
Mais avec ce jeu de tous les blessés, Toumou Amanou qui n'est pas là et Mian Gaëtan qui n'est pas là, il y a obligatoirement du turnover un peu derrière. C'est Nathan Decron qui devrait être le rôle de premier centre, lui qui est plus un porteur de ballon qu'un coureur. Et avec Fabien Broboiri qui lui est un peu qui peut jouer un peu les deux postes. Donc Fabien Broboiri pour la section et en face, c'est compliqué d'aller chercher un Montalbanais là.
Celui qui survit.
Je suis pas très inspiré. Peut-être Joshua Vissi, c'est peut-être l'homme qui l'un des meilleurs gratteurs de ce championnat. Quand on l'avait laissé fin novembre, il était en tête du classement des ballons récupérés. Donc Joshua Vissi, c'est peut-être le joueur phare de cette équipe.
Quentin Cabanis, commence par les Montalbanais. Mais s'il te plaît.
Eh ben moi je vais aller chercher le capitaine Fred Kersi, c'est l'âme de cette équipe et je pense que si Montauban veut faire un résultat, ça va passer par le caractère et le caractère, eh ben il en faut et ça doit être imprégné par cet homme Fred Kersi. Donc voilà, Kersi pour les Montalbanais et je vais aller sur Despérès pour la section paloise qui s'est révélé en tant que leader offensif de cette équipe.
Le costume n'est pas trop grand pour lui.
Non, dans le jeu au pied, etc. Sur les dernières journées, il nous a montré qu'il était quand même très intéressant. Donc voilà, Despérès pour la section paloise et Kersi pour Montauban.
Et moi, je vais aller sur le pilier Buet pour les Montalbanais, lui qui a signé du côté du Stade Français pour la saison prochaine, qui, malgré les difficultés de Montauban, montre des belles choses.
Quand même, lui.
Exactement. Il a aucun problème sur ses lunettes de vue. Et une chose est sûre, c'est que, eh bien, malgré les matchs parfois compliqué, c'est un joueur qui est assez intéressant, jeune et qui est capable de progresser dans les années à venir, lui qui a signé du côté Stade Français. Et pour la section paloise, j'irai sur Oradou qui est quand même l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur en touche,
oh, le meilleur, c'est pas y aller,
de ce championnat, et qui, alors qu'il est très jeune, a une lecture, une intelligence et qui va énormément peser pour contrecarrer l'alignement montalbanaise.
Ah, il lui manque juste quelques kilos quoi, pour être exceptionnel.
Ouais, il s'épaissit de plus en plus.
Ah, mais, en temps,
il grandit. Mais
il grandit tous. Il vieillit.
Bon, du coup, messieurs, pour ce match, pour ce pronostic Montauban-Pau, qu'est-ce que vous avez envie de pronostiquer? Une deuxième victoire montalbanaise, Quentin Marmazin?
Non, je vais aller sur une victoire. Mais c'est toi qui les aimes pas. Tu veux qu'on écoute la semaine dernière? Est-ce que tu leur aimes?
On va simplifier. Vous ne les aimez pas.
Non, une victoire Montauban, de Pau, ils vont le faire.
Non, c'est compliqué pour cette équipe montalbanaise, surtout en se vend le premier. Donc, défaite de Montauban, point de bonus, ou, malgré tout, ou pas?
Défensive, non, je pense 4-0 pour Pau.
4-0 pour Pau, Quentin Cabanis.
Ouais, je le dirais pas, mais je suis d'accord.
Bon. Et ben moi, je vais aller sur une victoire de Pau également, et pas de bonus défensif non plus pour Pau, pour Montauban, qui semble un peu trop juste pour rivaliser face au leader actuel de ce top 14. Dernier match de ce multiplex à suivre, je vous le rappelle, à partir de 16h35 sur Sud Radio avec François Trio, Perpignan, Clermont, les Perpignanais qui ont enfin gagné un match en Challenge Cup. C'est la première victoire de la saison face à un Clermont qui a tout simplement coulé en Champions Cup. Est-ce que c'est pas le meilleur moment et le meilleur adversaire, Quentin Barbaza, pour ces Catalans à domicile de jouer pour essayer de faire première victoire en top 14?
Est-ce qu'il y a un meilleur adversaire pour faire une victoire quand on n'a jamais gagné encore quasiment sur la phase aller? Je sais pas.
Il y en a des moins pires que d'autres.
Mais oui, c'est peut-être la bête la plus blessée du top 14 actuellement, l'ASM. Donc, avec une équipe de l'USAP qui semble un peu revoir de l'allant, un peu de jeu. Une victoire qui, je l'espère, pour eux, dans leur tête, leur a ramené un peu du moral. Et ils ont fait un bon match à Trévis quand même s'ils ont perdu. Et puis, il y a des joueurs qu'on recommence à voir à leur meilleur niveau. L'infirmerie c'est drôlement vidé, donc ils commencent à pouvoir faire tourner à l'entraînement, avoir plus de profondeur d'effectifs, et c'est peut-être enfin pour 2026 ou juste avant ces fêtes de Noël de s'offrir un beau cadeau d'aller gagner, d'offrir à tout Aimé Giral une victoire pour se relancer dans cette course au maintien. Et je pense que s'ils doivent gagner un match, ça doit passer par celui-là, parce que sinon ça va commencer à être très 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 compliqué.
Ouais, ça peut devenir très très compliqué. Est-ce que tu les vois faire quelque chose, Quentin Cabanis, ces Catalans?
Clermont, c'est l'équipe qui est en difficulté avec le Loup. Je pense que c'est les deux équipes qui ont du mal en dehors de Perpignan et de Montauban, évidemment. Mais on les a sentis mieux. Et puis, on se dit, est-ce que cette victoire en compétition presque européenne leur va permettre aux Catalans de lancer vraiment leur saison? En tout cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et moi, je ne sais pas pourquoi, sur ce match, je mettrais une petite pièce sur les Catalans.
Ouais, mais alors, après un mois de l'arrivée de Laurent Labitte à la tête de ce club, de Nicolas Nadeau, etc., je pense que là le staff a vraiment ancré son projet de jeu et que les joueurs commencent à le connaître, à le savoir sur le bout des doigts, les combinaisons. C'est ce qu'on a vu un peu en Challenge Cup là, ces dernières semaines. Mais
et puis là, même quand tu regardes la composition probable, quand l'équipe est alignée, c'est du solide. Il y a du Ricci, il y a du Oviedo,
depuis
il y a du
saison, c'est plutôt solide, mais c'est juste que les joueurs sont nombreux de même.
Il y a du Urda Pileta,
Urda Pileta, il a toujours 39 ans.
Il a toujours 39 ans, mais il y a Hugo Reuss qui est arrivé à Montpellier, qui est sur le banc. Messieurs, les joueurs que vous allez surveiller sur cette rencontre.
Urda Pileta, parce que il a 39 ans, mais bon, voilà, il va retrouver Clermont, il va retrouver Christophe Furios. Donc voilà, on vit de voir ce que ça va donner face à son ancienne équipe. Et puis de l'autre côté, Jauneau, le demi de mêlée à Clermontois, c'est le capitaine de cette équipe. Et il a un gros rôle. J'ai trouvé que Bézi avait pas été forcément exceptionnel sur les matchs de 2 champions la semaine dernière. Et
notamment du côté des Saracens.
Ouais, où ça avait été
compliqué. De Style à domicile.
Ouais, ça avait été compliqué. Donc voilà, le retour du patron.
Le retour du patron Quentin Barbazin.
Moi, je vais regarder le duel d'Argentin en troisième ligne parce que Oviedo, du côté de l'USAP, c'est un peu le joueur phare l'an dernier, même début de saison, quand c'était lui quand même qui grattait le plus, qui cassait le nombre de plaquages assez fou et qui portait le ballon. Et en face, il y a l'un des plus gros plaqueurs, un caractère assez bien trempé de Marcos Kremer. Et dans un match comme ça, qui je pense va être serré et au couteau.
Engagé.
Voilà, donc je pense que c'est un homme qu'on risque de voir demain, Aimé Giral.
Exactement.
Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance.
Je vais aller sur Théo Forner du côté de l'USAP, l'arrière qui, depuis le début de la saison, malgré les défaites de Catalan, c'est peut-être le meilleur joueur qui à chaque fois arrive à créer des brèches, à mettre un peu son équipe dans l'avancée. Théo Forner va être intéressant à surveiller avec ce numéro 15 dans le dos. Et du côté de Clermont, je vais aller sur Moala, le premier centre qui, on le sait, ne va pas continuer l'année prochaine à Clermont et qui va quand même malgré tout devoir peser sur cette équipe clermontoise s'ils veulent s'imposer du côté de Perpignan. Un petit prono sur cette rencontre. Allez, là, celle-là, elle n'est pas facile à
pronostiquer. Ouais, c'est dur. Mais même cette journée, dans l'ensemble, je la trouve assez compliquée à pronostiquer.
Elle est assez homogène, ouais.
Dans ce match-là, et je vais être optimiste pour les Catalans. Je pense que c'est l'heure de la première.
Et avec un bonus ?
Non, on va pas s'emballer.
Allez, une victoire sèche pour du coup les.
Ah non, parce que je pensais l'offensif. Non. Ah, un petit bonus défensif pour Clermont. Oui, ça va être serré. Oui.
Et moi, je dis pareil. Victoire de Perpignan, bonus défensif des Clermontois, Quentin Cabanis.
Non, moi, j'avais déjà annoncé une fois cette saison la première victoire des Catalans.
On l'a tous annoncé au moins une fois.
Allez, je retente ma chance. On va dire victoire catalane cette semaine. Enfin. Mais.
Est-ce qu'ils connaîtront la victoire dans ce top 14 en 2025?
Pas cette semaine, ça peut être compliqué.
À partir du début du championnat, pas sur l'année civile.
Non, mais j'ai compris où tu voulais en venir.
Merci.
Mais après, est-ce qu'ils vont pas nous faire un agent?
On parle bien d'agent.
Victoire de Perpignan pour tous les trois, en tout cas. On se dirige vers les deux grosses affiches de cette 12e journée. Lyon-Toulouse. Lyon qui, on se les avait laissés avec un peu de mieux du côté du top 14. Ça s'est pas vraiment arrangé en Challenge Cup. Ils reçoivent l'ogre toulousain. L'ogre toulousain qui, est pas vraiment un ogre. On a fait clairement tourner du côté toulousain avec notamment Kinghorn qui jouera à l'ouverture, ou encore Choco Barrès qui fait son retour, quelques jeunes mis également sur le terrain, et Antoine Dupont qui risque de commencer sur le banc, ou en tout cas il est en bataille avec Graou. Les Toulousains peuvent-ils aller s'imposer malgré cette équipe renouvelée du côté du...
Je trouve que c'est pas Romagné.
Kinghorn, c'est la première fois qu'il joue 10 de la saison.
Oui, non, mais Kinghorn, mis à part
quand il y a Tamac, quand
il n'y a pas une Tamac, généralement c'est Ramos.
Voilà, c'est
là, on voit quand même que Ramos reste en 15.
C'est ça qui est bizarre.
On aurait Ramos en 15 et Kinghorn en 10. C'est qu'on aurait très bien pu mettre Kinghorn en 15 et Ramos en 10.
C'est peut-être ça qui va se passer dans les faits aussi à voir.
C'est une composition probable.
Mais la composition toulousaine reste effrayante quand même. Je veux dire, quand on parle d'une équipe remaniée à Toulouse, tu te retrouves quand même avec Marchand, Colomb, Brennan, Flamand, Rouma, Jelon, Dupont, Graou, Ramos. Voilà, ça reste une équipe plus que correcte. Du moins, c'est une équipe qui peut viser le top 2 sans aucun souci en top 14. Donc voilà, équipe remaniée, j'irai peut-être pas jusque-là. Quoi. Une équipe à prime, quoi, ou à bis.
Abyss. Ouais. Est-ce que l'équipe Abyss peut battre l'équipe A de
En tout cas,
il
faudra pas qu'ils retombent dans les abysses qu'ils ont fait à Glasgow, quoi. Donc
la seconde période.
C'est pour ça qu'il est là. Hein. C'est pour ce genre de choses qu'il est là.
Ah bon, elle était facile.
Moi, je croyais que c'était pour son physique.
Aussi. Non. Aussi. Pour nos auditeurs,
C'est une bonne nouvelle que ce soit un podcast. Quentin Barbazin, est-ce que tu vois les Lyonnais s'offrir le scalp des Toulousains?
En tout cas, généralement, quand ils reçoivent Toulouse à Gerland, ça marche plutôt bien pour eux. 8 matchs consécutifs où Toulouse n'a pas réussi à faire tomber Gerland. Donc si la stat se confirme, ça devrait bien se passer pour les Lyonnais. En tout cas, ils vont encore tomber sur une équipe toulousaine qui a laissé quelques membres au repos. Il y a Romain Tama qui a eu sa semaine de vacances et quelques autres joueurs également. Donc, mais après, oui, c'est une chose qu'on ne justifie plus. Toulouse, même si en faisant tourner, ça va rester compétitif, ça va rester bon. Et puis ils vont arriver quand même, je pense, remotivés, resecoués cette semaine. Ça a dû un peu crier dans les travées d'Ernest Vallon parce que on n'a pas tout compris ce qui s'est passé à Glasgow en seconde période. Et ils vont vouloir montrer que c'est quand même eux les patrons. En top 14, ils ont perdu ces deux points. Il y a ce contexte encore. Et si jamais il y avait une défaite, ça va tout resserrer en haut. Et puis au final, l'objectif, ça restera quand même au final de la saison d'être dans les deux premiers. Et si on commence à avoir des décisions qui vont un peu contre eux, il va falloir aller gagner des points sur le terrain. Donc voilà, c'est un match où il faut, comment dire, remettre du sportif au travers de ce brouillard.
Exactement. Les joueurs que vous allez surveiller, Quentin Barbaza.
Côté du Loup, je vais aller sur le patron de cette équipe, Baptiste Couillou. Je vais faire du classique, un joueur qui tourne à quasiment un essai par match.
De l'évident.
Voilà, donc c'est un peu la facilité. Mais après, il y a d'autres joueurs que j'ai envie de voir sur ce match. Des Camicha face à Julien Marchand. Ça va nous rappeler un peu les bonnes époques du 15 de France, du début de la fin des années 2010. Et puis, non.
On aurait pu voir les deux frères qui s'affrontent. Ouais, d'un côté Guillaume et de l'autre côté Julien. Mais
des fois, il y a les Huleux. C'est les dynasties de frères quand ils sont face à face.
Mais Camicha, Julien Marchand, c'est pas mal.
C'est un beau duel. Et en face, côté toulousain, il y a un joueur, Blair Kinghorn, s'il a l'ouverture, ça vaut le détour. Quand même.
Quant à Cabanis,
Je vais suivre Quentin évidemment sur Baptiste Couillou qui est vraiment l'âme de cette équipe lyonnaise. Et si jamais les Lyonnais arrivent à relever un petit peu la tête, ce sera grandement grâce à cet homme. Et puis côté toulousain, je vais regarder Choco Barrès qui va faire son retour au centre. On sait qu'il a quand même un rôle important, notamment pendant les périodes de doublon. On sait que ce monsieur-là compte. Alors il est pas toujours là parce que hélas il est international aussi, avec l'Argentine. Mais Choco Barrès, moi c'est un joueur dont on parle pas souvent à Toulouse, mais qui est quand même toujours relativement très bon quand il joue.
Exactement. Moi, je vais aller sur Van Nicolo du côté du Loup, l'ailier fidjien qui est depuis le début de la saison.
Toi, t'aimes les joueurs frissons de toute façon.
Je suis un frileux, moi. J'aime le frisson. Voilà, le grand frisson, c'est avec Van Nicolo qu'on va peut-être le vivre. Lui qui est capable de débloquer des situations et surtout de marquer des essais ou de créer des décalages qui sont juste hallucinants. Et du côté de Toulouse, il y en a un qui va jouer gros, mine de rien. C'est Georges-Henri Colombe, qui depuis son arrivée à Toulouse, on va pas se mentir, il a du mal à confirmer toutes les attentes que les Toulousains ont misées sur lui. Et Georges-Henri Colombe qui, en effet, a gros à jouer pour...
Il va pas jouer gros, il va jouer Moukouro, mais...
Excellent. C'est
d'ailleurs
excellent.
Jean-Baptiste Roux qui est blessé.
On va parler dans un instant. Voilà, Bordeaux-Bègles, Toulon. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Georges-Henri Colombe va compter. Il va en effet essayer de confirmer un peu avec le Stade Toulousain, lui qui n'a pas enchaîné beaucoup de matchs et qui a eu quelques pépins physiques comme depuis quelques années. Oui. Les pronostics sur cette rencontre, messieurs, Lyon-Toulouse. Je vais aller sur une victoire de Toulouse avec un bonus défensif pour les Lyonnais.
Moi aussi.
Victoire sans bonus défensif, victoire de Toulouse, mais sans bonus défensif pour les Lyonnais.
Et la dernière affiche, messieurs, Bordeaux-Bègles, Toulon. C'est simple, Bordeaux a sorti la très grosse équipe pour recevoir les Toulonnais ce dimanche soir. La patrouille de France est de retour avec Lucu, Jalibert, Biel, Biarré, Moefana, Deporter, Penaud ou encore Buros. Devant, c'est pas mal non plus. Et les Toulonnais, eux, se déplacent avec des ambitions. Il y a du Olivon, il y a du Serin, il y a du Dréhan, il y a évidemment du Nonou, 42 ans, mais toujours présent. Enfin bref, une grosse équipe, une grosse affiche qui s'annonce. Pour vous donner un peu les informations, Bordeaux-Bègles actuellement 6e, tandis que Toulon est 3e. Ils ont 5 points d'écart. Il va falloir que Bordeaux gagne. Il ne faut pas que Bordeaux chute à domicile, sinon la saison en top 14 va plus être vraiment la même chose, Quentin Barbaza.
Ah bah là, ils n'ont pas le droit à l'erreur, là, l'UBB. Là, ils ont perdu contre Pau juste avant la trêve européenne. Ils n'ont pas le droit de retomber une nouvelle fois à Chaban-Delmas. C'est pour ça qu'ils ont ils ont mis tous leurs internationaux au repos, là, petit à petit. C'était les obligations de la Ligue, etc., de tous les internationaux, de avoir une semaine de vacances avant la fin de l'année civile. Là, tout le monde a eu ses congés. Donc, ils sont tous là, tous opérationnels et tous en forme, logiquement, pour affronter une belle équipe de Toulon qui va arriver avec des arguments. C'est la revanche de la dernière demi-finale du championnat, donc un match de dimanche soir qui va sentir bon les phases finales. Et il y a un gros enjeu, comme tu l'as dit, pour l'UBB qui ne doit pas sortir du top 6 parce que sinon ça va commencer à se creuser les méninges.
Exactement. Est-ce que les Toulonnais peuvent aller le faire du côté de Chaban, Quentin Cabanis, ou alors de ce qu'on a vu ces dernières semaines en Champions Cup, les Bordelais sont trop forts?
Mais là, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu une aussi belle équipe de l'UBB sur le papier depuis le début de la saison. Derrière, il manque personne. Donc déjà, c'est quand même assez impressionnant. Devant, ils sont en train de rentrer quasiment tous les mecs. Il y a même Dupraz qui va rentrer normalement le week-end prochain. Donc tu vois, tout pour la première fois de la saison, on le verra enfin peut-être, le Sud-Africain. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, je vois cette équipe de l'UBB plus forte. C'est pas que Toulon ne peut pas le faire, mais c'est que sur le papier,
à domicile,
voilà, l'UBB, c'est l'équipe qu'on imagine tous premier ou deuxième de la saison régulière. Là, ils sont sixième, ça peut ressembler à une anomalie. Et donc, on peut imaginer qu'avec ce genre d'équipe alignée, la vraie saison de l'UBB démarre. Les vacances internationaux sont passées, c'est derrière nous. Allez, c'est parti, on lance vraiment la saison, au moins jusqu'au tournoi destination, on engrange le max de points.
Ouais, bah, garde le micro, Quentin Camanis, pour nous dire les joueurs que tu vas surveiller dans cette Dream Team bordelaise et également dans cette très belle équipe toulonnaise.
Bah, il y a un joueur qui ne cesse de crever l'écran du côté de l'UBB et on a envie de regarder cette équipe surtout pour lui, c'est évidemment Mathieu Jalibert.
C'est très bon Mathieu Jalibert.
j'avais Barlow, mais bon, je préfère Jalibert, je suis désolé. Et duel de leader d'équipe finalement, puisque Jalibert, c'est un des patrons à Bordeaux, on va dire le patron de la magie, puisque j'imagine plus le cul en tant que patron en tant que tel. Voilà, mais et en face, le patron, bah, c'est Serein. Donc voilà, le duel de patron entre Jalibert et Serein, le duel d'artistes. Et
Quentin Barbaza, toi tu vas aller sur
Du côté de l'UBB, je vais aller sur Yoram Moefana, parce que depuis qu'il est revenu de blessure, bah, j'ai pas l'impression qu'il ait été blessé, tout simplement, parce que il affiche un niveau de jeu de suite en 3 semaines de championnat et de Coupe d'Europe assez stratosphérique. Il est dans le rôle qu'on lui connaît toujours, ce rôle de porteur de balle, de perforateur de défense. Donc quand il est là, l'UBB, bah, ça va mieux, ça avance, et derrière, quand ça lance le jeu plus facilement. Et en face, bah, il y a Mathis Ferté qui profite, qui gagne en temps de jeu, qui marque de plus en plus d'essais, qui est à l'aise dans ce projet de jeu toulonnais et qui est l'une des révélations de ce championnat. Un bon joueur de rugby, et ça va sur la pelouse de Chabans. S'il y a des espaces, attention à Mathis Ferté.
Ouais, exactement. Moi, je vais aller sur, pour les Bordelais, je vais aller sur Vern Taillefer, le troisième ligne qui, on le sait, est en fin de contrat, ne prolongera pas l'aventure du côté de l'UBB. Et pourtant, il enchaîne les matchs de haut niveau. Et il est titulaire depuis maintenant quelques semaines dans cette troisième ligne bordelaise et plutôt bien à chaque fois. Et du côté toulonnais, je vais aller sur un ancien de la maison bordelaise, je vais aller sur Matteo Garcia, le demi d'ouverture qui a eu sa chance la semaine dernière contre Basse, qui a sorti une performance solide, va avoir à cœur de faire une grosse performance contre ses anciens coéquipiers avec qui il jouait la saison dernière encore. En tout cas, cette affiche est à suivre sur Sud Radio à 21h avec Alexandre Priam. Très belle journée, je vous rappelle exactement le programme qui commencera samedi 20 décembre, donc à partir de 14h30, Stade Français, Racing 92, le multiplex avec François Trio, La Rochelle, Bayonne, Montpellier, Castres, Montauban, Pau, Perpignan, Clermont, et samedi à 21h, Lyon-Toulouse avec Alexandre Priam, et dimanche, Bordeaux-Bègles, Toulon, pour avec Alexandre Priam toujours. Si vous aimez la Pro D2, eh bien c'est ce soir également sur Sud Radio, ce vendredi soir sur Sud Radio, puisque cette 15e journée a commencé hier avec la victoire à domicile de Béziers face au leader Vannes. C'était une victoire un peu inattendue, mine de rien. Béziers dans le dur, Vannes qui était largement leader, 23-17. Et ce soir, il y aura un Colomiers-Valence-Romans ou encore un Biarritz-Oyonnax et le multiplex également à suivre avec Alexandre Priam et toute son équipe. Merci Quentin Barbaza.
Avec grand plaisir.
Merci Quentin Cabanis.
Avec grand plaisir.
Et merci à vous de nous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Et on se retrouve lundi en podcast avec la 3e mi-temps Sud Radio. D'ici là, bon week-end rugby à l'écoute de Sud Radio.